Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans vos questions, nos réponses, nous allons nous interroger sur la période liée au diagnostic de la maladie d'Alzheimer et principalement sur le processus d'acceptation des patients. Comment faire face au diagnostic? Comment se faire accompagner? Pour vous répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne Horn, psychologue clinicienne, neuropsychologue et formatrice, notamment au sein de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Bonjour Madame Horn.
Bonjour.
Alors, le moment du diagnostic constitue déjà en soi une étape difficile. Quels conseils souhaiteriez-vous donner aux patients qui nous écoutent pour être mieux préparés à ce rendez-vous et à l'éventualité de la maladie? Et dans quelles conditions préconisez-vous que cette annonce du diagnostic se fasse?
On conseille en général aux patients de venir accompagner. Et ça vaut pour toutes les situations où on a un diagnostic un petit peu compliqué à annoncer. Donc ça, ce serait peut-être le tout premier conseil, de venir accompagner. Et en général, le patient, il ne sait pas trop à quoi il s'attend en fait, mais s'il a déjà passé les tests et des examens pour chercher s'il y a des troubles cognitifs débutants ou s'il n'y en a pas, c'est qu'il a déjà senti que quelque chose n'allait pas. Donc très souvent, beaucoup vont à cet rendez-vous avec beaucoup d'appréhension, mais ils sortent soulagés, même si les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Mais de venir accompagner, c'est vraiment un point important afin que la personne et son proche aidant entendent le diagnostic au même moment et pour faire face au choc.
D'accord. Est-ce que vous auriez également un conseil peut-être pour les personnes qui sont amenées à donner ce diagnostic?
Oui, il y a dans différents endroits des travaux qui ont été faits sur la meilleure manière d'annoncer un diagnostic, et notamment un diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou un trouble apparenté. Dans l'idéal, on aimerait que le médecin ou le neuropsychologue ou la personne qui annonce premièrement le diagnostic puisse l'annoncer en douceur, en insistant aussi sur tout ce qui va bien. Il ne faut pas oublier que toutes ces maladies d'Alzheimer et apparentées se distinguent par les très grandes capacités adaptatives des patients. Et de pouvoir déjà insister sur ce qui va permet aussi de préparer le terrain pour recevoir des nouvelles un peu plus difficiles. Ça, c'est un premier point très important, de recevoir les deux au même temps, qui vont entendre au même temps le diagnostic. Et puis être reçu ensuite par un psychologue qui posera une autre question qui est « qu'a dit le médecin ?»« Qu'est-ce qu'a dit mon collègue neuropsychologue ?» Et ça permettra un petit peu à chaud comme ça, ou quelques jours parfois de distance, ça dépend de la temporalité, mais parfois c'est tout de suite après, de déjà se confronter à la représentation que le patient et son proche aidant a pu se faire de ce qui a été dit avec la personne qui a annoncé le diagnostic. Et parfois, on est très surpris. Le choc, ça peut créer le phénomène de sidération qui fait que même si les choses ont été dites clairement, en douceur, ils ne sont pas forcément entendus et intégrés. On parle parfois de déni. Un autre point important pour les personnes qui annoncent le diagnostic, ce serait d'emblée d'orienter vers ce qui peut être fait. Les moments très tragiques dont on entend encore parler, c'est des proches aidants ou des patients qui disent avoir été reçus par un professionnel qui leur a annoncé le diagnostic en rajoutant « c'est une maladie qui ne se guérit pas, revenez dans 6 mois, bonne journée et au revoir ». Et ça arrive encore aujourd'hui, et c'est évidemment dramatique et tragique pour les personnes qui reçoivent le diagnostic dans ce contexte-là. On conseille vraiment d'axer d'emblée sur toutes les stratégies et tous les dispositifs existants pour accompagner et pour continuer à vivre malgré cette maladie.
C'est très important. Merci pour ces premières pistes. Alors, la majorité des patients vont donc venir accompagner à ce rendez-vous, mais certains peuvent se demander, parfois tôt, parfois tardivement après le diagnostic, comment aborder le sujet avec les autres membres de leur famille, comment mettre au courant les autres membres de leur entourage. Quels seraient vos conseils pour ça?
Alors, dès que le patient sent qu'il est prêt à en parler aux autres, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, Déjà parce que quand on explique les comportements et les besoins, quand il arrive à mettre des mots sur ce dont il a besoin et ses attentes aussi sur son entourage, et expliquer ce qui lui arrive, ça sollicite bien sûr l'empathie de l'entourage. L'entourage peut mieux comprendre ce qui est en train de se jouer au lieu de se forger une opinion de « Ah, papa, maman vieillit mal, ah, il devient gâteux » ou d'autres choses de ce genre qui seraient plus dans un jugement et qui risqueraient de forger un regard un petit peu péjoratif sur le patient et ses comportements et ses nouveaux besoins qui vont émerger.
Oui, de poser des mots sur la situation, ouais. Ça permet de mieux l'appréhender.
Tout à fait, et mieux s'adapter surtout. Et ce n'est pas toujours facile, hein. Mais je pense qu'il est important, si on trouve que c'est compliqué de trouver les mots justes, on peut dire tout simplement, j'ai été voir le médecin, je m'inquiétais, et voilà les résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui raconte cette maladie, c'est le médecin qui a dit que. Ça veut dire qu'on va introduire du tiers, qui est donc le professionnel médecin ou l'équipe soignant ou le neuropsychologue qui a posé le diagnostic. Et on va reprendre les mots et les paroles, et éventuellement aussi l'écrit, le compte-rendu du bilan de ce professionnel.
Très bien. D'ailleurs, si vous êtes un aidant, Suzanne Horn, qui est avec nous, a également participé à un épisode côté aidant après l'annonce du diagnostic. Si vous êtes aidant, comment mieux accompagner votre proche dans ce processus d'acceptation, mais aussi comment vous pouvez être accompagné, puisque vous aussi, vous avez à vivre ce processus. Je vais revenir du coup à nos patients, Suzanne Horn. On vient de le dire, hein, quand ce diagnostic est posé, on a vraiment une période charnière et complexe qui s'ouvre pour le patient et pour sa famille. Les émotions et les pensées peuvent se bousculer. C'est une situation difficile, évidemment. Beaucoup de patients sont dans le déni. Par quelle phase peut passer un patient avant l'acceptation de ce diagnostic ?
Alors, il y a plusieurs modèles autour du travail d'acceptation. Certains parlent aussi d'une sorte de travail de deuil. C'est quand on est face à un événement de vie qui n'est pas choisi, qui n'est pas souhaité, par exemple une maladie, il y a un certain nombre d'étapes qui ont été modélisées par différents professionnels. Il y a plusieurs modèles possibles, mais celui dont on en entend le plus souvent parler, c'est le modèle à 5 étapes. Déni, colère, marchandage, tristesse, et puis à la fin, l'acceptation. On parle d'une première étape de déni, on peut parler de choc, de déni, de difficulté à intégrer cette réalité dans sa vie. Donc, ce type d'étape, on dit souvent que la meilleure façon de sortir du déni, c'est d'être confronté à la réalité. C'est pour ça que ce moment de diagnostic est extrêmement important, parce que c'est parfois là où le patient sort du déni, parce qu'un professionnel neutre, qui a objectivement observé les difficultés à travers à la fois des tests et à la fois une imagerie, va pouvoir argumenter cette diagnostic. Et donc, c'est souvent le moment où le patient va sortir du déni de ce trouble, mais pas toujours. Si les troubles sont trop importants, la personne qui reçoit le diagnostic peut aussi oublier. Ou, quelque chose de très fréquent qu'on voit aussi, c'est le patient n'est pas dans le déni. Il dit « mais oui, je pense qu'il se passe quelque chose dans mon cerveau, j'ai l'impression d'oublier ». C'est peut-être la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas très grave après tout. Comme si la personne programme mal les années qui vont venir, a du mal à se projeter dans ce futur et ne réalise pas tout à fait l'impact que cette maladie risque d'avoir sur sa vie. Et d'autres qui, au début de maladie, ne sont pas du tout dans ce genre de mécanisme et qui vont tout de suite réaliser ce qui risque d'arriver et qui vont plonger dans un épisode dépressif. Suite à l'annonce de diagnostic. Donc, dans ces 5 étapes, on parle aussi de la colère, le révolte, où on cherche quelqu'un qui ne serait qu'en partie responsable du malheur qui nous arrive. Si on avait su plus tôt, si mon généraliste m'avait orienté plus tôt, ça peut être aussi une colère contre l'entourage ou contre son travail. Et ensuite aussi l'épisode de marchandage, on cherche une sorte de négociation. On dit, j'ai trouvé sur Internet qu'un tel ou un tel aliment serait bénéfique. Si je prends beaucoup de cet aliment, alors peut-être que j'arriverai à stopper la maladie. Si je vais faire du sudoku tous les jours pour m'entraîner mon cerveau, alors peut-être que la maladie ne va pas évoluer. Et donc, un peu de fantasme de contrôle comme ça dans l'épisode du marchandage, Dans cette étape de marchandage, il y a l'espoir. Et dans l'étape suivante, bah, c'est le désespoir parce qu'on réalise que peut-être que ça ne va pas passer comme ça, qu'on ne va peut-être pas pouvoir en guérir, qu'on ne va peut-être pas pouvoir récupérer la même vie qu'on avait avant de rencontrer ces difficultés. Cette étape de dépression, alors on appelle tristesse ou dépression, mais bien entendu, ce n'est pas dans le sens forcément pathologique du terme. Ça veut dire qu'il est normal d'être triste et même passer par une période d'être inconsolable quand on est confronté à un événement de vie très lourd à supporter. Et l'acceptation devient possible parce qu'il y a souvent autre chose à réinvestir, une autre façon de vivre sa vie. Et on arrive un peu à se détacher des anciens modes de vie ou anciens préoccupations ou projets pour embrasser des nouveaux projets ou une nouvelle façon de vivre. Donc ça ne se passe pas comme ça de façon tranchée, bien sûr. C'est vraiment des allers-retours, parfois pendant une longue période.
Alors, pour traverser ces différentes étapes, l'accompagnement a un rôle très important dans ce processus d'acceptation. Par qui se faire accompagner dès l'annonce du diagnostic et pourquoi ?
Oui, c'est là justement, quand l'annonce du diagnostic se fait et la personne sort parfois du déni, ça dépend vraiment des individus où ils en sont par rapport à leur parcours et leur rapport avec leurs propres difficultés. Mais quand l'annonce est faite, on lève ce moment de déni, s'il y en a un encore. Il est important justement de proposer quelque chose et orienter la personne vers des professionnels qui peuvent l'aider. Même si ces maladies ne se guérissent pas, il y a encore la possibilité de vivre des belles années, plusieurs années. Et donc actuellement en France, c'est notamment les équipes spécialisées Alzheimer, ESA, qui sont prescrits par le médecin, remboursés par la sécurité, des séances d'orthophonie pour travailler le langage et ainsi retarder cette difficulté à utiliser le langage. On parle parfois d'aphasie quand on cite les différents troubles cognitifs. On peut orienter un peu plus tard, peut-être dans la maladie, à stade modéré, vers des accueils du jour. Et vraiment, je connais ce que c'est les différentes associations départementales France Alzheimer sur tout le territoire français. C'est des choses extraordinaires. Et venir frapper à la porte France Alzheimer pour pouvoir bénéficier de toutes ces actions de convivialité où on peut passer du temps de lien, ressourcement avec son proche ou avec d'autres qui vivent une situation similaire à travers des activités de convivialité, des activités de groupe, des voyages, des excursions, des sorties au musée, au théâtre, au resto, etc. C'est vraiment très important de maintenir toutes ces dimensions positives et ressourçantes de la vie pour ne pas se morfondre dans cette idée que maintenant, la vie est finie.
Exactement. Ce sont des accompagnements qui permettent déjà effectivement de proposer des solutions, mais qui aident aussi voilà, à imaginer sa vie avec la maladie, à visualiser cette nouvelle vie de la meilleure manière qui soit. Et vous êtes notamment formatrice, vous intervenez auprès des patients et de leurs familles. Quel type d'atelier ou de séance vous animez pour les patients ?
Alors, en effet, j'interviens dans plusieurs associations départementales en Île-de-France. Et pour les patients, j'aimerais vous parler d'un atelier auprès de personnes malades jeunes que j'anime pour France Alzheimer 94 à Créteil avec Maggie Figuro qui a monté cet atelier il y a plusieurs années avec la présidente à l'époque, Marie-Christine. C'est un groupe de parole qui se destine aux personnes malades jeunes en début de diagnostic et on ouvre cet espace pour les personnes malades et leurs proches aidants qui viennent parfois avec leur conjoint, parfois avec un enfant, parfois aussi avec un parent, puisque ce sont des malades jeunes qui ont parfois encore leurs parents qui peuvent du coup intervenir et s'occuper d'eux. Et une collègue psychologue et un autre bénévole s'occupent d'un groupe pour les aidants. Et moi et Maggie Figuro, nous animons un groupe de parole à destination des personnes malades jeunes en début de maladie. Puis on se retrouve à la fin pour un moment de partage et parfois aussi une approche un peu corporelle avec une séance de tai chi, un peu de danse, quelques mouvements de yoga. où on n'a plus la casquette. On ne sait plus qui est bénévole, qui est psychologue, qui est malade, qui est proche aidant. On est tous à égalité dans ce groupe qui se mélange à la fin pour finir sur une note de détente à la fois psychologique et physique. Et on rigole bien. Il y a beaucoup de rire dans ce groupe.
Ça doit faire du bien.
C'est ce qu'ils nous disent en tout cas.
Et il y a également d'autres ateliers qui existent. Alors, vous ne les animez pas forcément, mais est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, j'aimerais beaucoup parler de ce qu'on a appelé au début l'éducation thérapeutique et qu'on appelle aujourd'hui le parcours de soutien de patients. Ça a changé de nom puisque France Alzheimer n'est pas une structure de soins et cette appellation éducation thérapeutique a été réservée pour les hôpitaux et les professionnels qui en dépendent. Mais en tout cas, on fait le même type de programme France Alzheimer qu'on propose dans les différentes associations départementales où ce sont des personnes malades plutôt au début de maladie qui se retrouvent avec un psychologue et un bénévole pour parcourir un programme autour à la fois de leur représentation de la maladie, autour de leurs besoins, leurs nouveaux besoins, leurs attentes, ce qu'ils souhaiteraient, ce dont ils s'attendraient de la part de leurs proches et comment communiquer avec eux, comment maintenir ce lien, comment maintenir aussi des projets pour l'avenir avec cette maladie et continuer à vivre des belles choses.
C'est essentiel, en effet. Eh bien, merci beaucoup, Suzanne Horn, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur ce sujet et d'avoir mis surtout en avant les accompagnements qui sont possibles pour les patients ou les proches qui nous écoutent. C'est très important, vous n'êtes pas seule, c'est important de le redire. Merci beaucoup, Suzanne Horn.
Merci à vous, à bientôt.
Et comme je le disais, on vous retrouve d'ailleurs dans un autre épisode dans lequel on s'interroge sur cette période du diagnostic et de l'acceptation, mais côté aidant cette fois. Comment réagir et accompagner votre proche lors du diagnostic et après, bien sûr, et comment vous faire accompagner également. Voilà, je vous invite à écouter ce podcast complémentaire et nos autres épisodes sur le site ou encore l'application de France Alzheimer, la radio. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part. Au 09 72 19 04 23.